Vous écoutez Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, auteure et ancienne recruteuse. Chaque vendredi, je vous donne plein de conseils pour vous aider à trouver un job ou un stage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre nouveau répondeur au 01 73 05 45 27. Chers amis de Trouveurs d'emploi, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver Florence Marty, que j'ai eu le plaisir déjà d'accueillir la semaine dernière. Nous avons parlé ensemble des droits des candidats et c'est un sujet qui vous a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Et alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu plus humain, c'est le sujet des soft skills. Et je laisserai Florence déjà se présenter et nous présenter ce que sont les soft skills. Et après, je vous donnerai un petit scoop que j'ai déjà donné dans l'épisode précédent, mais je le redonnerai pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent.
Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
Eh bien, bonjour à tous, bonjour Christelle, merci évidemment pour cette invitation renouvelée dans ton podcast Trouveur d'emploi. Je suis ravie évidemment d'être ici. Pour me présenter rapidement, moi je suis actuellement dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle Encarel, où je dispense des formations auprès beaucoup de managers, mais aussi de collaborateurs, de dirigeants, sur tout ce qui touche aux hommes et à l'organisation. Et évidemment, dans ces formations, eh bien, on touche de très près le développement de ces fameuses soft skills dont on va parler dans cet épisode.
Alors, peux-tu préciser ce que sont les soft skills pour ceux qui nous écouteraient et qui n'en auraient pas encore entendu parler? Ça me semble étrange, mais il peut y en avoir. Et les opposer notamment aux hard skills et puis nous dire que voient dans ces soft skills les recruteurs notamment et comment les candidats, alors ça fait beaucoup de questions, je reconnais, hein, on les traitera au fur et à mesure, comment les candidats peuvent mettre en avant ces soft skills pour décrocher le plus possible de jobs.
Bon, mais écoute, je vais essayer de faire preuve de mes compétences comportementales et de ma mémoire pour répondre à toutes ces questions, puisque organiser sa pensée, organiser son discours, eh bien, c'est une soft skills, par exemple. Ce sont des compétences, je l'ai dit, comportementales, qui révèlent en fait le potentiel des candidats au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau humain, au niveau relationnel, c'est-à-dire sur toutes les dimensions professionnelles qui ne sont pas des dimensions techniques et de, entre guillemets, savoir. Donc, les dimensions techniques, ce sont ces fameuses hard skills, qu'on appelle aussi compétences dures. Et ces compétences dures, ce sont des compétences qui sont facilement évaluables, finalement, en entreprise. Par exemple, la maîtrise d'un logiciel. On peut facilement évaluer si quelqu'un sait ou ne sait pas se servir d'un logiciel. En revanche, la capacité d'adaptation face à une situation nouvelle, bah ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué à évaluer. Donc, c'est une bonne manière pour savoir si on est dans le soft ou dans le hard skills.
Alors, on parle de plus en plus, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des 10 premières soft skills les plus recherchées par les entreprises. Est-ce que tu aurais une liste de ces soft skills? Est-ce que tu aurais un top 10?
Alors, en fait, ça va être très difficile de savoir quels sont les soft skills que chaque entreprise va pouvoir rechercher, puisque ça va dépendre du secteur d'activité, mais aussi de la culture de l'entreprise et aussi du stade de développement dans lequel elle se trouve. On ne va pas avoir besoin forcément des mêmes compétences, ces fameuses compétences comportementales.
Et ça va dépendre aussi du métier.
Et ça va dépendre, mais non, mais évidemment, merci de le spécifier. Bien sûr, ça va dépendre évidemment du métier et puis du contexte aussi, hein, de la fonction, si c'est une création de mission, si c'est une fonction managériale ou pas, etc. Alors, moi, je vais te dire déjà les compétences que moi je recherchais quand j'étais recruteur: la capacité à communiquer, la bonne communication, et tu vas voir, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va te plaire dans ce que je vais dire. Déjà, il faut savoir que 90% des conflits en entreprise et des problèmes en entreprise sont soit issus d'un problème de communication, soit peuvent être résolus grâce à la communication. Donc la communication, pour moi, c'est absolument fondamental. Et au-delà de cette communication, qui est finalement une communication interpersonnelle, on a aussi aujourd'hui la nécessité de communiquer de manière sociale sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de communiquer vers l'extérieur. Et moi, je crois que de plus en plus, les entreprises devraient rechercher cette compétence-là chez les personnes qu'elles vont recruter, ne serait-ce que pour faire des fameux ambassadeurs
de la marque employeur.
De la marque employeur, c'est très important pour l'image de l'entreprise. Et puis, pour soutenir sa communication, aujourd'hui, chacun peut être un acteur de la communication de l'entreprise. Moi, ce que je recherchais aussi énormément, c'était la capacité à trouver et à rechercher seul des solutions, la capacité à apprendre. Il faut savoir qu'il y a 20, 30, 50% des métiers qu'on ne connaît pas d'ici à 10 ou 20 ans et qui vont changer. On est aujourd'hui dans une ère où la technologie, les innovations vont considérablement revisiter le monde du travail. Cette capacité à apprendre, elle est indispensable à aller chercher chez les candidats.
Et alors justement, je rajouterai une autre soft skill qui vient s'ajouter à cette capacité à apprendre, qui est l'adaptabilité.
Oui.
Parce que comme les métiers vont sans cesse évoluer, qu'on va être finalement remplacé par des robots au fur et à mesure, il va falloir s'adapter à chaque fois à de nouvelles situations. Donc tu l'as, j'imagine que tu l'avais dans ta liste aussi.
Alors je l'ai, mais et effectivement, pour moi, la capacité à apprendre est un des sous-ensembles de la capacité effectivement à s'adapter, cette fois-ci au poste, et à se développer. Puisque dans le fait d'apprendre, il y a l'adaptabilité et il y a aussi le développement personnel, la capacité à se développer personnellement, qui est une soft skills de plus en plus recherchée par les entreprises.
Qu'est-ce que tu as d'autre sur ta liste ?
Alors,
je suis curieuse.
Ce que j'ai d'autre, moi j'en ai une que je recherche énormément, c'est la capacité à prendre ses responsabilités.
À prendre sa part d'erreur.
À prendre sa part d'erreur. À avoir ce que j'appelle moi une maturité professionnelle, mais une maturité aussi personnelle. C'est-à-dire faire de son mieux et être capable de reconnaître quand on se trompe au lieu, comme c'est bien trop souvent le cas, d'aller chercher la faute dans l'environnement, chez les autres, de passer trop de temps à se défendre, finalement, des erreurs qu'on peut commettre.
Et justement, je voudrais continuer sur ce que tu dis, parce que cette soft skill est très précieuse, parce que à partir du moment où on est capable d'évaluer son erreur, de se remettre en question, ça nous permet de rectifier le tir. Et on revient dans cette possibilité d'évoluer et d'évoluer en permanence.
Eh ben, tu m'enlèves évidemment les mots de la bouche. L'adaptabilité, c'est aussi la capacité à être tournée vers l'avenir, au lieu de regarder le passé. Mais c'est aussi la capacité à gérer son énergie. Qu'est-ce que je fais ? L'énergie, hein, au travail ou dans sa vie personnelle, ce n'est pas un puits sans fond. Hein. Chacun a son volume d'énergie, hein, qui peut être quotidien, annuel, peu importe, hein, on s'en moque. Et on va aller se dire qu'on va aller puiser dans son énergie. Moi, si on passe toute son énergie à rechercher qui a commis l'erreur, ben, on ne passe pas suffisamment d'énergie à trouver des solutions et à avancer. Hein, la reconnaissance du droit à l'erreur, moi je recherche aussi beaucoup la tolérance. Le droit à l'erreur fait partie pour moi de la tolérance et le fait d'être orienté solution est aussi une soft skills extrêmement précieuse en entreprise. On va pouvoir avoir aussi la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, l'empathie hein, qui est de plus en plus recherchée notamment au niveau managérial, l'esprit d'équipe qui est la soft skills reine hein, depuis les années on va dire 80, mais on va pouvoir avoir aussi des compétences plus rares comme l'esprit critique, la gestion du stress, hein, notamment sur certains métiers qui va être très importante, hein, très prégnante, ou le sens de l'organisation.
Bon, mais ça fait une très très jolie liste et j'imagine que ceux qui nous écoutent ont une meilleure idée de ce que peuvent être les soft skills. Alors moi je voulais dire que c'est une bonne nouvelle si tous les recruteurs et les managers commencent à s'intéresser à ces soft skills chez les candidats. C'est une bonne nouvelle notamment pour deux types de profils, pour les jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle, qui ont peu de hard skills, peu de compétences techniques, qui ont peu d'expérience, mais qui ont tout ce savoir-être qui est aussi en eux, pour les jeunes, et puis aussi pour les personnes qui ont des profils atypiques, qui ont eu des trous dans le CV, qui sont en reconversion et qui ont du mal à arriver avec le bagage que l'on souhaitait avant, avec vraiment toutes ces hard skills qui rentrent bien pile poil dans les cases et qui vont pouvoir mettre en avant ces soft skills. Enfin, moi, je le vois comme ça, côté candidat. Oui. Toi, côté recruteur, est-ce que tu le vois comme ça? Quel est l'intérêt pour toi?
Pour ces deux populations, effectivement, il y a une soft skill qui est très importante, c'est la motivation. La capacité à se motiver soi-même et à avoir des ressorts de motivation qui sont forts, à donner du sens à son travail, à donner du sens à son action, à être capable de se projeter. La motivation derrière la motivation, il y a aussi la capacité à se fixer des objectifs, à les atteindre. Et effectivement, on peut aller piocher dans son expérience privée lorsqu'on est candidat, parce que on commence son activité professionnelle ou parce qu'on est en reconversion ou parce qu'on a eu des trous dans le CV, aller piocher dans son expérience privée et personnelle, et notamment au niveau de ses centres d'intérêt, pour aller montrer tout ce dont on est capable et ce qu'on est capable de mettre en œuvre, finalement, et prouver, c'est ce qu'on va devoir faire, aussi bien dans le CV que dans l'entretien, pour aller convaincre le recruteur.
Et là, tu insistes sur un point qui est essentiel. Comment est-ce qu'on peut montrer dans un CV, c'est-à-dire sur un bout de papier, ces fameuses soft skills? Alors, est-ce que tu as des trucs et astuces? Moi, j'en donnerai aussi, s'ils ne sont pas les mêmes que toi. Qu'est-ce que tu peux proposer aux candidats? Tu parlais des centres d'intérêt, par exemple.
Oui. Alors, je vais repartir sur les soft skills. Ce qu'on peut prouver, c'est chacun, je vais conseiller à nos auditeurs d'aller sur Internet, d'aller chercher des listes entières de soft skills et d'aller surligner celles qui les concernent. Et puis, pour toutes les soft skills, il faut déjà se questionner. Comment est-ce que je peux prouver dans mon CV que j'ai cette soft skills-là? Alors, je vous donne quelques exemples. L'enthousiasme, par exemple, dont je ne manque pas, qui est une de mes soft fondamentales, ça a même été une valeur chez moi pendant très longtemps, eh bien, on peut le prouver avec une photo souriante. Mais on va pouvoir le prouver aussi avec un langage qui va être chaleureux, qui va montrer qu'on est enthousiaste, une manière de parler, une manière de s'exprimer dans son CV qui va révéler finalement cet enthousiasme.
On peut, excuse-moi aussi, le montrer au travers d'un CV vidéo, d'un lien. On met un lien sur un CV papier, enfin sur un CV normal, vers un CV vidéo, vers une vidéo YouTube, vers un podcast où on va entendre ça.
Tout à fait. Alors, on va entendre l'enthousiasme. Et là, tu vois, j'avais aussi cet exemple-là, plutôt pour la soft skills créativité, la capacité finalement à créer, à prendre des initiatives, à innover, à être spontané, mais effectivement à être enthousiaste, on va pouvoir montrer ça. Mais on pourrait montrer aussi qu'on est quelqu'un de très sérieux dans une vidéo, d'accord ? Et tout en étant créatif. Mais bien sûr, si on utilise des supports audio ou vidéo, on va pouvoir montrer davantage de soi et davantage de sa personnalité. La fiabilité. La fiabilité, c'est une très belle soft skills. On oublie souvent que derrière la soft skills, il y a du professionnalisme. Moi, je conseille d'ailleurs sur un CV de mettre 3 soft skills, pas très loin du titre qu'on recherche ou pas très loin de son nom, en haut, un petit peu comme une petite signature de sa personnalité. Et je conseille de mettre une soft skills qui nous est personnelle, par exemple la confiance en soi ou la flexibilité, l'adaptabilité. Une soft skills qui est en lien avec la relation à l'autre. Donc la communication, la sociabilité, le fait d'avoir un esprit d'équipe ou d'aimer d'être dans l'entraide, par exemple. Et puis une soft sur le professionnalisme. Alors le professionnalisme, c'est quoi ? Ça va être l'efficacité, l'efficience, la fiabilité, la rigueur, l'organisation, qui sont des soft skills aussi qu'on oublie parfois, mais qui sont très importantes pour aller convaincre un recruteur. Et là, la fiabilité, bah, c'est zéro faute d'orthographe, zéro espace en trop dans le CV. Les règles qu'on choisit dans le CV, si je décide de mettre toutes mes dates en gras, bah, j'en ai pas une qui est en italique. Non, elles sont en gras. Elles ne sont pas en italique, c'est-à-dire que je me montre rigoureux, par exemple. Et puis, le sens de l'organisation, on peut aussi le montrer dans le CV en créant des espaces, en mettant les compétences, bah, pourquoi pas les soft skills d'un côté et les hard skills de l'autre. Je vais prouver, en fait, grâce à mon CV, ma carte de visite, je crois que c'est comme ça aussi que tu le présentes, et là, je vais démontrer que j'ai un certain nombre de soft skills.
Alors, puisqu'on parle de la preuve, de cette notion de démonstration, j'irai même un peu plus loin. Imaginons qu'on ait deux paragraphes, tu sais, ou deux encadrés avec les hard skills d'un côté et les soft skills. Je pense qu'on peut donner des exemples pour qualifier les soft skills. Par exemple, si on dit « forte adaptabilité » ou « adaptabilité », pourquoi est-ce qu'on ne met pas entre parenthèses si on a fait un voyage, un an de voyage autour du monde ou un an en Australie ou un an dans une ferme à élever des kangourous? Voilà, on va montrer, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, donner un exemple de cette soft skill que l'on annonce.
Tout à fait.
Si on fait ça, ça ne peut être que dans un encadré et ça ne peut pas être, si on utilise, comme tu le préconisais, une soft skill sous le titre.
Oui, tout
voilà.
à fait.
Mais ça peut être intéressant de... Parce que parfois, les gens donnent trois qualités comme ça sans les définir.
Oui.
Et je trouve que plus on donne d'exemples, plus c'est parlant.
Alors, c'est effectivement une possibilité. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne suivra pas le conseil de mettre les trois softs, effectivement, près du nom. Mais il y a quelque chose aussi. Tu peux les mettre proches, en fait, de ta soft skills ou pas. Par exemple, l'efficacité ou le goût du challenge, tu peux très bien le mettre dans ton pavé soft skills. Et puis, si tu es notamment un commercial, mettre des chiffres pour toutes les expériences, finalement, que tu as eues pour dire, bah, voilà, j'ai atteint mes objectifs et tu vas prouver que tu aimes le challenge et que tu les dépasses et que tu dépasses tes objectifs. Hein ? On va utiliser le wording, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les mots en anglais, mais bon, le langage, le texte, hein, évidemment, pour aller appuyer ce que par ailleurs on énonce à un moment dans le CV.
Et alors, ça, c'était côté candidat,
oui.
Sur, je dirais, le CV. Côté recruteur, côté employeur, quelles sont les techniques pour détecter ces fameuses soft skills ? Parce que tu sais, ça fait bien maintenant de dire, oh ben nous, dans notre entreprise, on s'intéresse beaucoup aux soft skills. Ça oui. va justement dans le sens de la marque employeur. Mais comment on l'évalue ?
Bon, alors écoute, pour moi, il y a une seule manière de les évaluer. Et justement, ça n'est pas d'aller chercher des questions directes chez le candidat, comme par exemple sur les hard skills, quel est votre niveau en Excel, est-ce que vous savez faire des croisées dynamiques, etc. On va aller poser des questions sur le comportement du candidat. Et pour moi, la meilleure technique, c'est de demander à un candidat de raconter un souvenir professionnel sur la soft skills qui nous intéresse. Et on va poser une question très simple. Racontez-moi un souvenir professionnel où vous avez été confronté à un problème d'éthique, par exemple. Et on attend. Voilà. Et on attend que le candidat raconte un souvenir. Et pour aller qualifier le souvenir, on va avoir besoin, en tant que recruteur, de trois éléments. C'est très important ce que je dis, en fait, parce que le candidat, c'est comme ça que les candidats peuvent convaincre les recruteurs. Quelle que soit la question qui est posée à un candidat, le candidat peut répondre par un souvenir et c'est le souvenir qui va aller embarquer aussi le recruteur. Trois éléments extrêmement importants pour pouvoir exploiter ce type de question. Il faut le contexte, c'est bien un souvenir professionnel, on ne parle pas de généralité. On parle d'un souvenir parce qu'en fait ce qu'on veut savoir c'est que l'autre se raconte. Donc, à partir du moment où on a un élément de contexte, « Ah bah je me rappelle, c'était en décembre », c'est bon, on a le contexte. Deuxième chose, on a le comportement du candidat. Le candidat parle bien de lui. Hein, il n'est pas en train de parler de son collègue de travail, de son manager ou de qui que ce soit d'autre. Non, il parle bien au jeu. C'est bien lui qui parle. Très important. Un candidat qui ne sait pas parler de lui, ça peut donner une indication sur une soft skill qu'il n'a pas. Ça, notamment par rapport à la prise de responsabilité. Hein. Quand un candidat parle toujours des autres et pas de lui, On peut se questionner et on peut même lui faire remarquer. Et enfin, troisième élément extrêmement important pour avoir une réponse complète et puis pour pouvoir analyser la réponse du candidat, c'est la conclusion. Si le candidat ne la donne pas spontanément, j'invite le recruteur à demander « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» pour avoir finalement l'issue. Et là, on est souvent totalement époustouflé. On peut être époustouflé par la réponse, puisqu'on peut avoir un comportement qui semble totalement adapté avec une conclusion mais hallucinante, ou au contraire, avoir un comportement qui semble très inadapté avec une conclusion qui est formidable. C'est le cas notamment, par exemple, des commerciaux qui peuvent, moi qui ont pu, parfois j'en ai un en tête, qui a pu me raconter un souvenir d'un entretien mais qui était tellement mal parti avec un client, de bafouillage, de un Gaston Lagaffe en fait en entretien. Et ce candidat-là n'arrivait pas très bien à se mettre finalement en avant. Il était très sincère par rapport à ce qui s'était passé. Et quand je lui ai demandé « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, en fait, ça a créé une empathie énorme avec son prospect, qui est devenu un client et qui est presque devenu un ami, en fait, dans le temps. Et finalement, c'est une très belle histoire, puisque ce commercial, bon, bah, il s'est planté en entretien, hein, comme ça arrive parfois avec les clients, mais il a très bien réussi à rattraper les choses, il ne s'est pas démonté, et ça, ça démontre des choses de sa personnalité qui sont très intéressantes.
Et toi, tu l'as recruté ?
Et moi, je l'ai recruté, évidemment.
Donc c'est encore une plus jolie histoire.
Tout à fait. Et l'inverse peut être vrai. On peut avoir des candidats qui vont évoquer un entretien client, parce que je demande évidemment des souvenirs hein, aux commerciaux sur un entretien réussi ou raté avec un client. On peut avoir des entretiens qui peuvent très bien se passer. Et là, on demande « Et alors ?» quelle est la suite, finalement, de l'histoire ? Et là, bah, la suite est stérile, en fait. Et on voit que le candidat n'est pas allé au bout, qu'il n'a pas réussi à oser, proposer même une prestation à son client, etc. Tu vois, donc c'est très important d'avoir cette conclusion-là. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, le candidat, pour se préparer, vous reprenez la liste de soft skills que vous avez faite lorsque vous avez fait votre CV, et à côté de chaque soft skills, vous vous remémorez un souvenir, si possible professionnel, où vous avez exploité cette soft skills. Et quand vous avez votre base de données et de souvenirs, eh bien vous allez en entretien en étant serein et vous allez pouvoir parler de votre comportement en entreprise et au travail. Et ça, ça a une très grande valeur pour convaincre un recruteur.
C'est vraiment un très bon conseil que tu viens de nous donner, Florence, avec cette preuve par l'histoire. Et on aime toujours écouter de jolies histoires et surtout de jolies histoires professionnelles. Et alors, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu as entendu parler de ces fameuses MAD skills ?
Alors oui, j'en ai entendu parler. Ça tombe assez bien que tu amènes le sujet parce que il y a l'émergence de ces compétences entre guillemets folles dans la traduction littérale qui sont en fait des compétences hors normes, un peu hors du commun, rares, et ce sont des compétences que les candidats ont souvent développées dans le cadre privé. Dans le cadre de hobbies, de passions, de centres d'intérêt, d'activités sportives. Alors là, je suis très partagée par rapport aux maths skills.
Est-ce que déjà, tu pourrais donner un exemple ? Est-ce que tu as des exemples de... Moi, j'en ai...
Voilà. Ah bah vas-y, hein, si tu en as, je t'en prie, parce que je vois ta tête, je sais que tu as envie de le dire.
Oui, parce que moi, j'ai eu le cas, quand je travaillais dans le marketing, on travaillait sur de nombreux supports et on avait un membre de l'équipe qui arrivait très rapidement à trouver des synonymes. Mais plus vite que Google. Donc, dès qu'on cherchait un autre mot pour le dire quelque chose avec le même sens, mais différemment, on l'appelait et il nous sortait 10 ou 12 synonymes. J'avais aussi une collègue de travail qui mémorisait tous les numéros de téléphone de tout le monde. Elle avait une liste, un répertoire téléphonique dans la tête et plus personne ne consultait. C'était à l'époque, il n'y avait pas de portable.
Ouais.
Mais on lui demandait...
C'est un peu moins utile.
C'est un peu moins utile, tu vois. Cette math skill n'aurait plus de sens aujourd'hui. Donc, c'est vrai que parfois, les gens font des choses un petit peu incroyables.
Mais on peut être un champion dans une discipline sportive. On peut être un champion de Rubik's Cube. On peut avoir, je ne sais pas, être inscrit au Guinness des records. J'en sais rien. Hein, des choses comme ça qui peuvent être surprenantes. Et en fait, Les intérêts vont être opposés si on est recruteur et si on est candidat. Un candidat a tout intérêt à les mettre en avant et a tout intérêt à en parler parce qu'il va jouer alors sur des biais cognitifs et notamment l'effet de halo. C'est-à-dire qu'il va réussir à se mettre en avant, à époustoufler finalement la personne qu'il a en face de lui. Et du coup, le recruteur ou l'opérationnel va être embarqué, je dirais, dans une ambiance un peu positive, un peu trop positive. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire que le fait de créer de l'enthousiasme chez l'autre va créer de l'enthousiasme aussi sur tout le reste, hein, y compris sur les hard skills, plus professionnel, etc. Donc là, le candidat a tout intérêt à le faire. En revanche, le recruteur a tout intérêt à ne pas être piégé par ses biais cognitifs. Et à mon avis, tout intérêt à rester dans le cadre des compétences qui sont directement liées au poste. Déjà parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, la loi nous le demande. La loi nous demande de poser des questions qui sont en lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé. Et moi, j'ai une petite alerte, du coup, quand on parle de ces mad skills qui sont très recherchés par les employeurs, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens.
Ah, je ne l'avais jamais vu sous cet angle, parce que maintenant, justement, toutes les boîtes qui vont dans le sens de la marque employeur sont en train de nous vendre ça, nous dire « mais nous, les math skills nous intéressent beaucoup et tout ». Mais en fait, si on prend ta manière de voir, c'est presque embêtant par rapport à la marque employeur.
Ben, ça peut l'être. Et puis, il y a un autre biais qui est très important en recrutement, c'est le biais de confirmation. Par exemple, moi, j'ai beaucoup en formation de gens qui me disent « Ah ben, quand je vois un sport collectif dans les loisirs, l'esprit d'équipe, c'est hyper important, je prends. » Alors déjà, il faut savoir que les sports collectifs, ce sont beaucoup plus souvent des hommes qui font des sports collectifs que des femmes, y compris à un âge plus avancé. Donc déjà, moi, le côté sport collectif, ça me met une petite alerte sur une éventuelle discrimination sur ces sujets-là. Et puis, on va aller mettre un préjugé sur les sports collectifs et se dire on a forcément l'esprit d'équipe, et on va en entretien se laisser embarquer dans son biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va poser des questions et écouter les réponses qui vont dans le sens du préjugé qu'on a déjà, et parfois de très longue date. Et alors ça, moi, ça m'embête aussi un petit peu du côté du recruteur. En revanche, côté candidat, encore une fois, le candidat a tout intérêt à aller jouer finalement sur ce terrain-là et à aller chercher la sympathie du recruteur et parler peut-être même d'autres sujets que du poste.
Mais toi, qu'est-ce que tu vendrais ? Tu as une mad skill ? Que tu pourrais mettre en avant, par exemple, en entretien, et qui aurait de la valeur.
Écoute,
dis-nous moi, tout. Moi, on est entre nous, on n'a pas beaucoup de gens qui nous écoutent.
Alors moi, je vais te dire, dans mon CV, il n'y a jamais eu aucun loisir. Et une fois, un recruteur me dit, je vois qu'il n'y a pas de loisir dans votre CV. Je lui dis non, effectivement. Et puis j'attends. Et puis un petit peu plus tard, dans l'entretien, il me dit... Et puis je souris, évidemment, je me marre. Et je ne réponds pas, parce que je ne veux pas répondre, en fait, sur mes loisirs. Et puis un petit peu plus tard, il me dit « Ah, je vois que vous avez fait une formation en recrutement. » Je dis « Oui, alors je suis RH quand même à la base, c'était pour un poste de RH. » Et il me dit « Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette formation en recrutement ?» Et je lui dis « Mais j'ai appris à ne pas poser de questions sur les loisirs. » Et j'ai évidemment éclaté de rire. Donc... Moi, des math skills, je vais te dire, j'ai des math skills qui sont proches des soft skills. Voilà. Moi, j'aime les gens. Voilà. Je ne sais pas si c'est une math skills, mais je vais te dire que je suis capable d'amour.
Bon, en tout cas, c'est une lovely skill.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que tu as des points à rajouter, Florence, par rapport à ce sujet ? Parce que je viens de me rendre compte que j'ai promis un scoop en début de podcast, d'épisode, et puis que je ne l'ai pas annoncé. Alors, pendant que tu réfléchis, je vais peut-être l'annoncer.
Mais je t'en prie, vas-y.
Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté l'épisode précédent avec Florence, le scoop qui nous concerne toutes les deux, c'est que nous avons travaillé ensemble sur un livre pendant un an qui concerne la marque employeur et qui est en train de sortir... Troisième semaine, dernière semaine de janvier, qui sort là en ce moment et qui s'adresse aux employeurs, qui s'adresse aux recruteurs. Alors, ce n'est pas le premier livre sur la marque employeur, mais nous avons choisi un angle d'attaque un petit peu différent, puisque le but, c'est d'utiliser votre marque employeur, la jolie communication que vous allez faire autour de cette marque employeur, que vous l'utilisiez à des fins de business, à des fins de rentabilité, pour développer votre chiffre d'affaires, tout en étant bien évidemment le plus humain possible. Donc, le titre du livre, pour ceux que cela intéresse, est « Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction ». Et nous l'avons écrit avec
Laurence Tetrel. Et dans ce livre, pour revenir finalement sur le sujet des soft skills, eh bien, on est un employeur marquant quand on va chercher aussi à accompagner le développement de ses collaborateurs. Parce qu'une soft skill, si tu me demandais si on avait oublié de dire quelque chose, il y a quelque chose qui est fondamental, pour moi qui suis quand même dans la formation, c'est qu'on peut les développer. Que les soft skills qui vous intéressent, même si elles sont embryonnaires, eh bien vous pouvez accumuler des savoirs, vous entraîner et adapter votre comportement pour pouvoir les développer à la fonction qui vous intéresse. Et les employeurs ont tout intérêt, tout au long de l'expérience collaborateur, à proposer des formations et pas que, des accompagnements qui permettent de développer les collaborateurs qui pourront évidemment les mettre en œuvre et contribuer à la valeur de l'entreprise.
Eh bien, merci Florence, nous allons vous laisser sur ces jolis mots. Merci à toi d'avoir été là au cours de 2 épisodes de Trouveurs d'emploi. Je vous dis à tous à très bientôt, très belle journée, et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes de Trouveurs d'emploi. Merci Florence.
Merci Christelle et merci à tous pour votre écoute.
Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.